Vous écoutez
RMC.
Je pense qu'aujourd'hui, on va pas se permettre de tuer l'ours avant de faire le championnat.
Je pense qu'on va pas brûler la peau de l'ours avant de l'avoir vendu.
C'est une position que j'aime bien aussi, donc voilà. C'est intéressant d'avoir plusieurs arcs à son flèche, donc c'est bien.
Jusqu'à minuit, c'est l'afterfoot.
Nicolas Jamain.
Bonsoir à toutes et à tous, l'After est là comme tous les soirs jusqu'à minuit à la radio sur RMC, à la télé bien sûr, également sur RMC Sport News. L'After, la seule émission radio de France en direct, 7 jours sur 7. Casting du soir, bonsoir Ludovic Obraniak.
Salut à tous.
Bonsoir Daniel Riolo.
Bonsoir les amis, merci de me recevoir dans votre After du vendredi.
De l'élégance, comme on l'appelle, l'After. Je vois que tu as fait l'effort. Très élégant.
Ouais, c'est vendredi.
Non mais toujours lui, hein, c'est ouais. Le seul membre de l'after historique de la semaine à pouvoir intégrer l'after de l'élégance. Monsieur Vest est avec nous. Il y a pas les 12 pièces de Jonathan McCarty ce soir, mais il y a quand même le petit pull cachemire. Hein. Enfin, non, le petit pull cachemire, c'est quoi?
Bien. Hein. Ah, parce que vous avez l'habitude de faire des briefs et des briefs.
D'accord,
ok, je savais pas.
L'after est là bien sûr jusqu'à minuit avec un gros programme. On est ensemble pendant 1h15 quasiment. Le débrief de la défaite du PSG ou de la victoire plutôt de Dijon, lanterne rouge qui bat le leader. 2-1 ce soir. Accident ou problème profond, on va en parler ensemble bien sûr. Nantes qui veut Ben Arfa, ça semble clair désormais, bonne mauvaise idée. Est-il Gourcuff compatible? Question qu'on peut se poser. Et puis Villas-Boas, si on a le temps, Marseille, Steve Finn, c'est une raison sur la saison de l'Olympique de Marseille. Un peu fataliste encore, un peu plus en conférence de presse aujourd'hui avant la réception de Lille demain à 17h30. Supporters parisiens, Dijonais, Nantais, Marseillais, appelez-nous au 32-16 bien sûr. On vous répondra et puis le hashtag RMC Live, l'application RMC Sport, Direct Studio. Tous vos commentaires bien sûr, mais d'abord... Comme tous les soirs dans l'after, ou quasiment, l'essentiel, c'est les 3 points.
L'important, c'est l'essentiel.
Le plus important, c'est les 3 points.
Souvent, l'essentiel, c'est le plus important.
On commence avec toi, Daniel.
Bon, l'événement du soir, c'est bien sûr la défaite du PSG. Parce qu'on s'y attendait absolument pas quand le Paris Saint-Germain va à Dijon. Donc, mon premier point, c'est 3 défaites en 12 matchs. Il est où le bon début de saison du PSG? Puisque j'ai beaucoup entendu ça, avec notamment des matchs, paraît-il, extraordinaires. Il y en a eu des bons. Toujours est-il que c'est un début de saison qui, à mon sens, n'est pas bon. Deux, attitude trop facile ce soir. Et je m'interroge sur les choix de Tuchel. C'est pas la première fois cette saison. Mais j'ai pas compris pourquoi Marquinhos s'était repassé en défense centrale alors que c'était devenu un milieu de terrain. Pourquoi Bernat a joué au milieu alors qu'il avait qu'à jouer à sa place habituelle arrière-gauche. Ensuite, je parle même pas du choix de faire rentrer Kurzawa qui est forcément un handicap. Et puis le troisième point, c'est évidemment bravo à Dijon, mais pas bravo à Dijon uniquement parce qu'ils ont gagné. Bravo à Dijon pour la façon dont ils l'ont fait.
Parce qu'ils ont joué.
C'est absolument extraordinaire ce qu'a fait Dijon, vraiment. Parce que c'est pas le truc à l'arrache, c'est pas le truc avec un coup de cul et tu mets le bus derrière pour tenir un résultat. Non, ils ont joué vraiment. Ils ont livré un très bon match, les Dijonais.
Ludo.
Je voulais faire une référence à l'after de l'élégance, mais Paris Saint-Germain, même quand t'es le Paris Saint-Germain et que tu joues à Dijon, c'est quand même tenue correcte exigée, quoi. Tu rentres pas en claquette, t-shirt, jean, quoi. Donc ils sont arrivés un peu comme ça, ils se sont fait secouer par une équipe qui avait plus d'envie qu'eux. Mon deuxième, c'est Jobard, mais pas que. Jobard, vous avez compris, Barjo.
Ouais, bien sûr.
Le jeu de mots, parce que comme l'a dit Daniel, c'est réfléchi. Je pense qu'il s'est inspiré de ce qu'a fait Reims. Il a compris que cette équipe notamment contre les petits, ne supportait pas courir vers son but. Et sa tactique est vraiment bien dans ce sens-là. Et mon troisième point, c'est Villas-Boas à balle réelle. Ça y est, on enlève les gilets pare-balles, ça commence à tirer sur les joueurs et c'est pas plus mal.
On parle de Marseille, évidemment, supporter Marseille, appelez-nous hein, en deuxième partie. On va faire gros quand même sur la défaite, c'est la victoire de Dijon, la défaite du PSG. Pour être clair, le standard explose depuis 5 minutes. Là. Romain est saoulé d'appel, saoulé au bon sens du terme. Adrien, pardon. Beaucoup d'appels. Cyril, dans un instant. Yacine est avec nous. Tiens, on va commencer avec Yacine au 32-16. Salut Yacine.
Ouais, bonsoir.
Salut Yacine.
Alors, j'ai un petit écran moi dans l'after ici. Il y a marqué Yacine, supporter PSG. 22 chèvres sur le terrain ce soir, c'est le cirque. J'ai du mal à comprendre.
Non, mais bien sûr, parce que
Pourquoi 22 chèvres,
Dijon a fait un bon match. Encore une fois, quand les petites équipes font des bons matchs contre Paris, c'est Paris qui s'aborde tout seul. C'est pas les autres qui sont meilleurs. Ils font pas mieux que Dijon. Tu les retrouves la semaine prochaine, ils perdent. Donc, faut arrêter de me dire que Dijon a fait un grand match. C'est comme contre Reims, quoi. C'est exactement la même chose. Tuchel, j'ai pas compris son approche du match. Encore une fois, j'ai l'impression, mais une main devant, une main derrière. On joue 16 minutes. Mbappé met son petit but. On se dit que ça va aller tout seul. Et au final, final, ben non, il faut courir, il va falloir faire les efforts. Et ben, y a des joueurs qui n'arrivent pas à se mettre ça dans la tête. La rentrée de Draxler, j'ai trouvé que c'était mais d'un cirque, mais n'importe, il est perdu au milieu de terrain. Il était là, complètement paumé. Icardi,
c'est vrai, à sa décharge, ça faisait tellement longtemps qu'il n'avait pas joué, c'était peut-être pas le meilleur moment pour lui de rentrer dans un match.
Entre la 60e et la 72e minute, j'ai compté 16 tirs, dont 2 poteaux. C'est quand même hallucinant. Devant le but, ils font quoi, les mecs? Il y a un moment, ça veut dire qu'au bout de la 70e, tu dois en mettre au moins 3 ou 4. Faut arrêter les conneries. Moi, je veux bien que contre ces petites équipes, on dise oui, ils ont fait un gros match, l'entraîneur de Reims, bravo, l'entraîneur de Dijon, bravo. Mais arrêtez, c'est parce que les autres en face, ils sont d'une nullité absolue. Mais absolue! Nul à chier! Et Tourelle, il sert à quoi là-dedans? Dans ce genre de match, l'approche mentale, elle sert à quoi? À chaque fois, on dit que c'est le pendant du Jürgen Klopp. C'est ce que les deux sont un petit peu comme sont un petit peu comme deux frères ennemis. Mais c'est n'importe quoi. L'approche mentale, elle est où là dans ce type de match? Elle est zéro.
Et pourtant il a mis
un coup. Donc à chaque fois qu'une équipe qui va avoir un peu de caractère, elle va jouer sa survie. Toi, tu vas faire quoi? Oh, bah tiens, je vais jouer 10 minutes. Allez Mbappé, tu me fais une petite accélération, tu me mets un but, et puis après on laisse filer le truc. Mais c'est n'importe quoi ça. C'est n'importe quoi. Non, Tourelle.
Prends un petit cachet pour te calmer parce que là t'es un petit peu tendu.
Non, mais y a de quoi être tendu là. Hein,
même si le PSG est effectivement mauvais, et il faut que le PSG soit mauvais pour que l'adversaire s'en sorte en Ligue 1, on le sait. Mais tu ne peux pas ne pas mettre en avant malgré tout. Je comprends ce que tu veux dire. Évidemment, si Paris est bon, Dijon n'a aucune chance. Mais il faut que l'adversaire, en étant d'abord vaillant, profite de la faiblesse ou de la nonchalance de l'autre pour déjà jouer et ne pas aborder la rencontre comme on avait vu énormément d'équipes le faire par le passé, c'est-à-dire en se mettant tous derrière, en essayant de ne rien proposer. Pas ce qu'a fait Dijon. Et pour ça,
dès le premier quart d'heure, Daniel.
Et pour ça, t'es obligé de souligner la performance de Dijon. Ça veut pas dire que Dijon est plus fort que le PSG. Il s'agit pas de dire ça, mais tu dois t'arrêter, faire la photographie du match et dire que Dijon a eu des intentions qui n'étaient pas celles de bétonner.
Bien sûr qu'ils ont eu des intentions,
et que donc ils ont fait.
On a tous vu.
Ils ont fait un très bon match parce que ils ont, même quand ils menaient, continuer d'essayer de sortir les ballons, continuer de jouer les attaques à fond, quitte à prendre les contres. Et d'ailleurs, les contres, c'est ce que t'as dit, c'est les fameuses actions où Paris a frappé les poteaux, la barre, où ils ont eu toutes ces occasions. Ça veut dire que Dijon a même accepté de se déséquilibrer parfois, de prendre des risques, quitte à ce que le PSG égalise. Et ça, pour ça, je suis désolé, je ne le vois tellement peu en Ligue 1. Je critique tellement d'équipes en Ligue 1 de jouer avec la trouille au cul sans arrêt, que ce soir, vraiment, je veux féliciter Dijon. Après, que tu me parles. Alors,
tu les féliciteras la semaine prochaine s'ils prennent une valise.
Mais qu'est-ce qu'on en a à faire?
Tout le monde réagit. Dijon, ils sont bien sympas. Ils se transcendent contre le PSG. La semaine prochaine, ils vont s'attaquer.
Mais qu'est-ce que ça peut faire?
C'est pas le sujet, en fait.
Mais qu'est-ce que ça peut faire?
Et c'est là où Paris, justement, doit en profiter.
Mais non, mais Yacine, je suis désolé. Là, tu es très mauvais perdant. Et ton attitude n'est pas acceptable.
Globalement, il y a beaucoup de supporters parisiens qui réagissent comme ça.
On en a rien. Non, mais les supporters du PSG, là, c'est faux.
Non, mais il y a un péché d'orgueil.
Il faut juste se calmer deux minutes. Redescendez sur terre, les gars. On n'en a rien à cirer que Dijon la semaine prochaine se fasse cogner et soit nul. Ce soir, ils ont été bons. Donc ce soir, tu leur dis bravo. Il faut être un petit peu beau joueur et bon perdant. Oui, évidemment qu'ils se transcendent contre le PSG. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent?
Eh oui.
Évidemment qu'ils vont se transcender contre le PSG. Tu voudrais pas qu'ils baissent la culotte dès que les Parisiens arrivent quand même?
Ben là, c'est la fête dans le vestiaire.
C'est dingue ce que tu dis.
C'est marrant, Ludo, on tenait la parole. Il y a beaucoup de réactions du supporter marseillais qui, en revanche, salue Dijon en parallèle à la prestation de leur équipe la semaine dernière.
Bien sûr.
Pourquoi Marseille est incapable de faire ce qu'a fait Dijon ce soir,
PSG. Après, t'es obligé de dire que le PSG, quand ils abordent l'OM, ils l'abordent dans des dispositions mentales.
Évidemment.
Et tout autre.
Bien sûr.
Il faut pas tout mélanger. Analyser le match de ce soir.
Ludo.
Non, je vais dans le sens évidemment de Daniel. Je trouve Yacine un poil irrespectueux
et
très mauvais joueur sur ce coup-là.
Très mauvais.
Dijon, il fallait être comme tu l'as dit. Il y a beaucoup d'équipes qui seraient même contre une équipe affaiblie du Paris Saint-Germain, puisque les différentes expérimentations au milieu de terrain et autres ont fait que finalement Dijon, il aurait pu Jobard passer à 5
bien
et,
sûr.
Voilà, et rester défendre, attendre un contre, un coup de pied arrêté.
C'est parce qu'ils mettent le 2-1.
C'est pas ce qu'il a fait. de la seconde période. Il a profité, c'est, on ne va pas reprocher à Dijon d'avoir exploité, d'avoir appuyé sur les faiblesses parisiennes. Ils ont fait un très bon match avec une approche tactique digne de ce nom. C'est-à-dire que Jobard, il avait vu que contre Reims et sur d'autres matchs, Paris ne supporte pas défendre, courir vers son but, faire des efforts, et notamment contre les petits, parce qu'ils ont cet esprit, enfin cet état d'esprit de supériorité. Et ben il a mis des mecs, qui courent et qui ont de l'intensité sur les côtés.
Tu le sais, tu le dis toi aussi. Méfions-nous toujours des scores contre Bruges. Le score, il est trompeur. Pendant une bonne partie du match, les Belges, quand ils font exactement ce que tu viens de décrire, ils emmerdent les Parisiens. C'est pour ça qu'il faut rester très méfiant quand ça s'enflamme après la première mi-temps, qui, c'est vrai, était spectaculaire du PSG contre l'OM. Elle était très bonne, comme leur match contre le Real, par exemple. Mais ce qui tue le PSG chaque année est en train de se reproduire. Enflammades et machins. Et qu'est-ce qui va se passer quand ils vont jouer à 4 devant? Et Cavani, maintenant, il est bon pour la casse parce qu'Icardi, il a mis des buts dans tous les sens. Et Di Maria, bah, tu vas dégager, tu vas retourner sur le banc quand Neymar va revenir. Et Mbappé, il est stratosphérique et tout. Ce soir, Mbappé, il est pas bon. Il met son but derrière, il fait beaucoup de choses.
On va faire l'évaluation tout à l'heure, mais qui est bon ce soir au PSG?
Certainement, non, attends, je corrige.
S'il y en a un,
c'est certainement un des meilleurs, c'est vrai. Mais il fait beaucoup de mauvais choix.
La rentrée de Cavani, intéressante aussi dans le contexte.
Oui, mais bien sûr.
Même s'il y a une bonne nouvelle, tiré de ce match-là.
Inexistant. Paredes, inexistant.
Abdou Diallo. Diallo n'a pas encore lancé sa saison au PSG.
Non, mais Abdou Diallo, il n'a pas déjà.
Merci, Yacine.
Déjà, arrière gauche, ce n'est pas son poste, Abdou Diallo. Abdou Diallo, il faut le faire jouer dans l'axe. Donc, soit tu le fais jouer dans l'axe, soit tu ne le fais pas jouer. Tu vois, Bernat.
Arrière gauche, franchement, il s'en tire pas trop mal.
Il s'en sort, mais ce n'est pas son poste de prédilection.
Je préférerais quand même lui 1000 fois pour ça, hein.
Arrière, ah, oui, mais ça c'est
un
discours
de jeu incroyable.
Mais si t'as Bernat,
improbable.
Si t'as Bernat, Kurzawa, il fait jouer Bernat à son poste.
Non, mais
si t'as
le faire tourner Bernat. Non, voilà. Ça, pour le schéma tactique,
si il joue,
initial,
okay, fait le jouer à son poste.
Je comprends pas pourquoi
tu fais reculer au milieu. Tu fais peut-être reculer Di Maria au milieu. Et puis tu mets Sarabia à la place de Di Maria. Et puis c'est tout.
T'avais pas besoin, Ludo. Tu jouais avec, à partir du moment où tu le fais jouer Bernat, fais le jouer arrière gauche. Tu faisais la charnière Kimpembe Diallo, Dagba. Tu mettais Marquinhos à ce qui est dorénavant son nouveau poste. Et puis après, tu jouais au milieu avec Gueye et Paredes et les trois devant. Mais moi j'étais persuadé que ça allait jouer comme ça. Puis d'un coup j'ai mis au moins 10 minutes. J'ai dit, attends, mais j'arrive pas. Pourquoi Bernat il est à ce point au milieu? Pourquoi Bernat il est là? Mais pourquoi il dézone tout le temps? Et après j'ai dit, mais attends, mais tu vois pas clair ou quoi? Il est au milieu. Et Marquinhos a reculé. Mais pourquoi il fait ça ce soir? Il expérimente parce que c'est Dijon. Tu prends la porte dans la gueule. Tu respectes pas le jeu, tu respectes pas le foot, tu prends la porte dans la gueule.
Mais c'est pas la première fois. Et c'est pas la première fois qu'il la prend dans la gueule.
3 défaites en 12 matchs, c'est énorme.
C'est la première fois depuis l'arrivée des Qataris en 2011 à la tête du PSG. La dernière fois, c'était en 2010-2011, 3 défaites après 12 journées. Bien sûr, on en parle encore avec toi, Ludo, avec toi, Daniel. Beaucoup d'appels au 32-16 de supporters parisiens, beaucoup de réactions de supporters marseillais. Tiens, supporter parisien qui nous écrit sur le direct studio. Je ne mets pas en doute la victoire de Dijon, mais les équipes qui jouent contre le PSG font généralement des bons matchs, puis le suivant, ils se font taper. C'est pas le problème.
Gros, c'est match de gala. C'est match de gala. Delcourt, il est dans les loges. Il reçoit ce soir 200 personnes. Alors que d'habitude, c'est
comme 50. Si on reprochait à.
Il y a le repas de gala.
Tu reproches à deux en Coupe de France de faire un exploit. Super, les gars, vous avez pas.
Mais au-delà de ça, tu reproches à Dijon ce que le PSG fait. PSG joue bien que contre. Il se sublime que dans les gros matchs et puis dans les petits, il a se filé.
Daniel Riolo, du Lico Brandi, Clafter est là jusqu'à minuit, 22h56. A tout de suite avec beaucoup d'appels, encore une fois, supporters parisiens. Appelez-nous au 32-16, supporters marseillais également et nantais. A tout de suite.
RMC.
L'Afterfoot.
RMC,
L'Afterfoot, Nicolas
Jamain. Avec Daniel Riolo, avec Ludovico Bragnac, l'After est là jusqu'à minuit, bien sûr. Dans un instant, on parle de l'Olympique de Marseille, bien sûr, de Nantes également. Supporter Marseille, d'ailleurs, on vous fait un beau cadeau. Oulillois, on vous offre deux places pour le match demain au Vélodrome, 17h30.
Un beau cadeau pour un beau match, à mon avis.
Face à Lille. Un match que tu vas regarder forcément. Avec attention, avec stress, tu vas transpirer.
Bien évidemment.
Des gouttes vont perler dans ton front.
Pas à ce point-là.
J'ai vu devant Lille.
Je suis surtout impatient de voir la capacité de rebond de l'Olympique de Marseille parce que les choses commencent vraiment à se compliquer. J'ai hâte de voir s'il y a vraiment du caractère dans cette équipe.
Pour l'instant, on n'a pas vu le caractère.
C'est le meilleur match pour le montrer.
Il y en a plus pour le PSG non plus ce soir. Battu 2-1, je vous le disais, par le dernier de Ligue 1 qui avait marqué une seule fois deux buts cette saison sur un match. Mbappé a ouvert le score à 19e, Mounir Chouillard. Puis le Vénézuélien Jean-Pierre Cadiz. Tu chantais ça tout à l'heure.
Faut pas minimiser, faut pas dévaluer même ces équipes-là. Elles sont pas capables.
Si, tu vas le chanter, hein, Ludo. Hein,
elles sont pas capables de.
Chuter comme un fou à troisième étage RMC Sport.
Les yeux de velours.
Il est un peu timide sur le chant. Hein.
Il va pas
pousser la voix et j'ai que dalle, moi. Ouais, j'adore chanter.
Mais vas-y, chante, on s'en fout. Cyril nous a appelé au 32-16 et après il y aura Luc, supporter dijonnais, bien sûr. J'ai hâte d'avoir la réaction des supporters dijonnais par rapport à la réaction des supporters parisiens. Salut Cyril.
Bonsoir messieurs.
Salut Cyril.
Bon, est-ce que t'es un petit peu rageux par rapport à la victoire des Dijonais?
Absolument pas. Ah. Absolument pas, parce que concrètement, et je rejoins là-dessus Daniel comme très souvent, je partage son avis, bien entendu, il convient de saluer la performance des Dijonais qui ont exploité la quintessence d'un potentiel, certes limité, mais ce soir en effet ils ont tout donné, ils ont fait une prestation digne d'un match de coupe, et donc là-dessus pour moi il y a zéro débat sur ce sujet. Bien entendu, je pourrais mettre l'accent sur des performances complètement indignes, mais vraiment indignes, que ce soit Ganagay, que ce soit Navas, parce que bon, ce soir, je sais pas, ça a été un portier de boîte de nuit, mais certainement pas un gardien de but de son standing. Moi, je souhaiterais vraiment surtout mettre l'accent, puisque pour moi, ce soir, oui, ça, c'est pas un épiphénomène. Je fais partie de ces supporters qui ont été marqués au fer rouge par la défaite de Barcelone. J'étais de ceux qui étaient présents ce soir-là, et je constate à mon grand désarroi que mon club ne progresse pas. Bien entendu, moi je suis tourné sur les échéances du printemps ou de la fin de l'hiver de Ligue des Champions. Et ce que je vois, c'est qu'on a un coach, Thomas Tuchel, qui n'a absolument aucune prise sur son effectif. Je m'interroge sur sa capacité justement à motiver les joueurs, parce que bon, la performance contre Marseille, qui a été une performance à mi-temps, et c'est le cas de le dire, moi m'a que très moyennement satisfaite. Maintenant, je m'interroge vraiment sur sa capacité. En effet, pour moi, ce club doit avoir un degré d'exigence qui doit être bien supérieur. On se revendique aujourd'hui d'appartenir à la caste des grands clubs d'Europe. Moi, dans tous les grands clubs d'Europe, il y a un degré d'exigence qui est au niveau. Moi, ce que j'ai vu ce soir, c'est comme trop souvent, c'est une performance indigne à tout point de vue tactique. Alors bien sûr, hein, Tourelle a tout faux ce soir. Mais est-ce que les joueurs, à un moment sur le terrain, se remettent en cause? Oui, alors Kylian Mbappé a peut-être pas été extraordinaire, mais ce soir, il était vraiment seul au monde. Je m'interroge vraiment là-dessus. Je suis fortement inquiet et j'ai peur, comme trop souvent, je fais encore partie de ces supporters un petit peu empreints d'idéaux, oui, ou de rêves, et je vais encore aller voyager certainement donc en 2020 pour aller justement espérer voir mon club se qualifier, enfin franchir cette étape fatidique. Enfin voilà, donc c'était, si vous voulez, plutôt je voulais prendre un peu plus de hauteur, de mise en perspective, parce que ce club souffre de maux endémiques, et malheureusement plus le temps passe et moins je vois les choses avancer de ce point de vue, et j'espère que Leonardo à un moment va peut-être davantage intervenir en la matière.
Ok Cyril, on va réagir évidemment. Je rappelle que Tourelle, après la victoire face au PSG, face à l'Olympique de Marseille 4-0, une deuxième mi-temps quasiment inexistante. Les Parisiens l'avaient dit. Ouais. J'ai parlé à mes joueurs, je leur ai dit, nous au PSG, on se doit être bon tout le temps.
Bah ouais.
On doit maintenir le niveau très haut, que ce soit en Ligue 1 face à Dijon ou contre le Real en Ligue des Champions.
Tu vois Nico,
il n'a pas été écouté.
La défaite de ce soir, forcément, t'es obligé de la relier.
Elle interpelle
à cette seconde période contre l'OM. Parce que
Daniel, si je puis me permettre. Comme tu le disais très bien, depuis le début de saison, le rendu est loin du compte. On peut pas se satisfaire de ça. Enfin, honnêtement, on a un effectif qui est quand même complet. Aujourd'hui, je ne vois aucune émulation. Il y a des types qui rentrent et qui ont la chance, justement, certes contre le 20e, de mettre en avant leur qualité, parce que Ganagay, il a un certain pédigré ce soir. C'était, je ne sais pas, son cousin, son grand-père. Enfin, bref, je vois des joueurs, je ne vois pas d'émulation, je ne vois pas justement d'envie, je ne vois aucune capacité à apprendre des erreurs qui maintes et maintes fois ont été commises. C'est ça qui me déplore.
Daniel, vas-y. Et Ludo ensuite.
Vous connaissez ce fameux film Un jour sans fin, c'est Un jour
bien
sans
sûr.
Fin.
Bien sûr, excellent film. Magnifique.
Pour que ce soit Un jour sans fin, attends le printemps. Voilà. Pour l'instant, on est
le jour de la marmotte.
On est encore en automne. Chaque chose en son temps, si tu veux bien.
On se rappellera Daniel. Je veux pas voler Cassandre.
Attends Cyril, laisse parler un peu Ludo et Daniel.
Là, c'est vrai qu'en l'occurrence, t'es quand même assez pessimiste.
Ouais, c'est un peu catastrophiste les garçons quand même.
Il faut s'arrêter au match de ce soir et voir simplement de quelle façon Tuchel va corriger ça. Tu sais, dans l'histoire du PSG récente, il y a eu de tout. Il y a eu les 6 premiers mois extraordinaires. Je pense que l'année dernière, ils étaient mieux.
Où tu écrasais ce genre d'adversaire sur 90 minutes.
Avec des gros scores, ce qu'on n'a pas eu cette année, pour un résultat au printemps décevant. Là, Paris est en train de vivre pour la première fois un début de saison bizarre. 3 défaites en 12 matchs, totalement inattendu. Avec à l'intérieur de ces matchs, quelques satisfactions, des bouts de matchs de la fameuse théorie Tourelle, grosse intensité, récupération très haute. Et ils avaient réussi quelques enchaînements. Le match à Nice avait été très bon. Moi, j'avais pas tellement aimé Bruges, mais la première mi-temps contre l'OM avait été extraordinaire. Quand tu vois le match de ce soir, obligatoirement, tu repenses à la deuxième mi-temps contre l'OM, qui, pour, sur le coup, n'avait pas eu beaucoup d'importance. On l'avait relativisé en se disant « Bon, allez, ils n'ont pas voulu se fatiguer parce qu'il y a beaucoup de matchs, parce que… » Et puis après, une telle première période, oui, évidemment, on avait totalement minoré cette performance en demi-teinte. Et là, ce soir, quand tu vois ce qu'ils font, la maladresse, le milieu de terrain dépassé, les entrants qui ne sont pas au niveau… Les
battu,
choix de Tourelle très curieux,
battu dans les duels.
L'obstination, parce que moi j'appelle ça une obstination avec je veux pas parce que ils sont tous mauvais ce soir. Mais Kurzawa, faut plus jamais le faire.
Mais c'est incroyable.
Il ne sert à rien.
C'est le gamin qui te ramène des notes pourries chaque bulletin scolaire.
Non, mais il faut vraiment.
À qui on fait encore des cadeaux.
Pourquoi tu le fais jouer,
chérie? T'as eu 3 maths. Je t'offre une.
Non, mais d'autant que sur la physionomie du match. Pourquoi faire replace Bernat et faire rentrer un mec
Bernat avait l'air un peu rôti,
ouais, hein.
Mais donc t'es obligé de te dire bon allez, la fameuse théorie je ne fais pas de sentiment, ouais. Le mec en forme joue, bon par ailleurs je fais tourner, mais Icardi je continue à le mettre et Cavani je le fais pas jouer. Bon, là, la théorie, excuse-moi, elle commence à devenir un petit peu bancale. Parce que je me dis que Cavani aurait très bien pu démarrer ce match.
On va parler de Cavani, il y a une déclaration notamment de Tourelle.
Quand même,
Ludo.
Non, mais ce qui inquiète surtout notre auditeur, c'est que il le dit, les supporters, tout le monde a été marqué au fer rouge par de nombreux épisodes. Sauf que le fer rouge, quand t'es marqué, tu t'en souviens tout de suite, tu t'en souviens toute ta vie. Je veux dire, tu le sens, à un moment donné, ça fait mal, ça pique. Donc dès que tu te retombes dans ce genre de contexte, de situation, tu dois avoir un rappel à l'ordre qui te dit, mais quand on est comme ça, c'est sûr qu'à chaque fois, on n'y est pas. On n'est pas dans le résultat, on n'est pas dans l'intensité, dans les duels, dans l'envie, on n'y est pas. Et ça doit être un rappel constant. Mais t'as l'impression que ce rappel, il revient jamais. T'as jamais un mec qui, à un moment donné, est capable de dire, et pourtant, hein, t'as des mecs qui sont là, qui sont des bons gamins, qui sont des bons leaders, des Marquinhos, des mecs comme ça. Ben, voilà. Tu te dis que ça avance pas. En
Marquinhos,
tout cas,
une ou deux fois, s'est fait enrhumer par les attaquants.
Marquinhos, qui avait déjà été dégueulasse il y a 15 jours, je crois.
Mais
sur un match,
tu vois, ce soir, Daniel sera peut-être pas d'accord avec moi, mais c'est vrai que l'absence de Verratti dans la créativité du jeu au milieu de terrain, elle est.
Je suis pas d'accord, évidemment.
Hey, et même Thiago Silva. Pour moi, Thiago Silva, cette année,
c'est l'importance de Tourelle. Thomas Tourelle en conférence de presse en direct après sa défaite.
On a manqué précision et rythme et les conséquences dans les challenges et aussi le rythme. On a joué très passif, trop passif, mais pas seulement défensivement, mais aussi offensivement. On n'a pas joué ensemble. On n'a pas joué notre principal du jeu. C'était un peu un effort, un peu. On a. We rely. What is rely? To rely on something. Ok. Égal. Et le deuxième mi-temps, c'était le meilleur. C'était beaucoup meilleur parce qu'on a fait, je pense, 3 frappes pendant le premier mi-temps et 17 frappes pendant le deuxième mi-temps. Mais voilà. C'est peut-être on n'a pas mérité aujourd'hui d'avoir la chance. Et oui, c'est une victoire pour Dijon. C'est heureux, mais c'est normal quand une équipe veut gagner contre nous qu'ils ont la chance. Et ils ont la chance. Ils ont fait 2 buts, peut-être sans avoir des occasions. Et on a eu beaucoup des occasions. C'était possible de gagner le deuxième mi-temps, mais. C'était pas comme ça aujourd'hui, mais peut-être. Pendant les premiers mi-temps, on a perdu l'occasion d'avoir la chance.
Thomas, comment vous expliquez le fait?
Thomas Tourelle, entraîneur du PSG en direct sur RMC après la défaite du PSG 2-1 face à Dijon, le dernier de Ligue 1. On écoute encore une réponse, après on revient.
Le dernier, si mes souvenirs sont bons, c'était face à Reims au Parc des Princes. C'est quoi? C'est un manque d'implication, un manque de concentration face à des équipes qui sont dites plus faibles que le PSG?
Moi, on doit aussi admettre que vous regardez notre composition contre Reims. On a eu beaucoup de changements. 6, 7, 8 changements entre deux matchs très serrés. Et aussi la chance, quand c'est nécessaire, n'oubliez pas, on a toujours, c'est pour toutes les équipes, on doit avoir la chance aussi, de petites décisions, des grandes occasions ici ou pas, pour gagner aussi un match, mais c'était comme ça contre Reims. Et aujourd'hui, oui, on manque six joueurs, mais on a joué peut-être la première fois dans cette composition-là, mais aujourd'hui, j'ai eu l'impression que, nous, comme je dis, on a joué trop passif. Mais oui, c'est la même équipe qui a gagné maintenant cinq fois, impressionnante. Et pour ça, nous sommes critiques avec nous. Et OK, le résultat, on déteste de perdre, mais on doit être réaliste. C'était avec la même performance, c'était possible de gagner parce qu'on a eu beaucoup de grandes occasions. Mais peut-être tout le monde a dit.
Voilà, c'est un peu long. Il y a deux tensions.
Il a raison, on peut explorer et gagner ces matchs-là parce que oui, les occasions, ils ont eu tête sur la barre.
Il dit qu'il manque de chance également.
Oui, mais tu peux pas tout remettre là-dessus. Oui, tu peux gagner en étant mauvais, mais tu peux aussi être puni en étant mauvais. Et ce soir, ils ont été punis. Revenons à ce que disait Ludo sur les absents. Ouais, bien sûr. Et Thiago Silva aussi, son absence. Mais
ça doit pas être préjudiciable pour une équipe. Voilà.
Mais non,
pour le Paris Saint-Germain. Tu m'enlèves les mots de la bouche parce que j'allais enchaîner en disant ça.
De cette qualité-là.
Tu peux pas dire il manquait des mecs.
Et à l'image de cette conférence de presse, il est soit très bon, soit après Marseille où il pèse parce que la deuxième mi-temps est pas bonne. Et puis là, il vient pleurnicher contre Dijon, 20e de Ligue 1, à dire qu'il lui manquait 6 joueurs et qu'il a pas eu de chance. Et attends, quand t'es Paris Saint-Germain, tu étais premier avec tant de points d'avance.
Tellement de marge,
et que tu joues le 20e,
le manque de chance doit pas être un
argument. Tu vas pas me dire que tu comptes sur la chance pour battre Dijon.
Exactement. Merci à Cyril d'avoir appelé au 32-16. Tiens, supporter dijonnais Luc nous a appelé également. Salut Luc, bienvenue dans l'after. Luc, est-ce que tu es là? Salut Luc.
Bonjour l'after.
Salut Luc.
Comment ça va?
T'étais au stade?
Oui, bah écoute, j'étais au stade et puis écoute, là je jubile, c'était une très belle soirée qui se colle par une victoire. Alors tout n'a pas été parfait, on concède beaucoup d'occasions, mais on jubile, voilà, c'est une belle soirée. Je reprendrai les termes de Thierry Roland, on peut mourir pas longtemps, mais on peut mourir tranquille ce soir, et puis voilà, c'est super.
C'est un vrai événement, alors pour Dijon. Hein.
Ah bah, écoute, je pense qu'il y a des matchs où les contenus ont été encore meilleurs, et ce soir on concède beaucoup d'occasions. Je pense qu'il y a eu aussi beaucoup de maîtrise au début du match, il ne faut pas enlever tout le mérite aux Dijonais, mais ce soir on jubile. Pour un club comme Dijon qui est 20e de Ligue 1 et qui a été enterré depuis longtemps pour cette rencontre, on jubile. C'est le terme.
C'est vrai que nous ici, tu peux. En début de saison, Ludo, Jonathan notamment, il était très inquiet pour Dijon. Bon, Dijon est encore 18e de Ligue 1. Mais ce soir, alors je ne sais pas ce que tu en penses, Luc, mais Dijon pourrait jouer plus ou moins de la même façon chaque week-end. Quand tu fais une fois, tu peux le faire au moins ou t'en rapprocher chaque week-end.
Il a beaucoup. Ouais,
tout à fait, écoutez, c'est regrettable parce qu'on a toujours en tête le match contre Brest où malheureusement il y a peu d'intensité, peu de maîtrise. Et là ce soir je pense que Paris, à défaut de ne pas avoir tous leurs joueurs et tout ça, on subit la maîtrise du Genève au début du match. Et je pense qu'on est rentré directement dans le match. Et puis voilà, c'est regrettable et puis on espère insuffler beaucoup d'envie dans l'équipe pour le reste des matchs en Ligue 1 cette saison.
Ludo, tu me contredis Luc si j'ai faux, mais je crois que c'était la première fois qu'il a aligné Tavares et Cadiz ensemble sur le front de l'attaque.
C'est un système qui a réussi à Dijon parce que pour les puristes de Dijon et les suiveurs, on se souvient du duo qui avait associé Tavares avec Diony, ça marchait déjà très bien. Donc ce soir on est content du système et puis voilà, le premier mois au mois d'août on a joué sans attaque malheureusement. Ce soir, je pense qu'il y a des vrais motifs de satisfaction sur ce temps-là.
C'était très bien joué de sa part. On parlait de Jobard tout à l'heure. Tu savais forcément que tu allais subir un peu. Je trouve que d'ailleurs, dans ce rôle-là, Ekwelemanga a été un vrai leader. On a retrouvé Ekwelemanga qu'on a connu à Lorient, incisif, patron. Je l'ai trouvé vraiment très bon ce soir. Et puis, tu as pu ce quatuor offensif qui a mis des coups de boutoir sans arrêt, qui a exploité les faiblesses et de Kurzawa et de Kipembe et de Marquinhos et du milieu de terrain ce soir. Je trouve que ces garçons-là, Mama Baldé d'un côté, c'est Chouillard de l'autre, avec cette doublette devant qui était en capacité, avec le Tabarès qui a gagné quasiment tous ses duels de la tête, Cadiz qui a réussi à garder des ballons, qui a mis la pression constamment. Ben voilà, peut-être que Stéphane Jobard, il s'est trouvé un système là, en 4-4-2 qui lui irait très bien, avec ces deux garçons devant qui, ma foi, pèsent sur une défense, et des garçons qui sont capables, avec leur vitesse, de faire des différences sur les côtés.
Merci Luc d'avoir appelé le 32-16.
C'est un plaisir, merci. Merci, et puis j'espère que t'as envoyé un message à Flo, Ludo.
Pardon, j'ai pas entendu, Luc, excuse-moi.
J'espère que t'as envoyé un message à Flo Balmont, du coup. Hein.
Ouais, pas encore, mais bon, il est pas rentré, il doit être déçu. Donc,
tu sais, le
vieux bougon, faut pas trop le taquiner quand tu joues pas.
Merci, Luc, excellente soirée à toi.
Merci, messieurs.
Ciao, bonne soirée, merci d'avoir appelé dans l'after. Messieurs, beaucoup de gens réagissent. Bon, alors, on nous dit également, messieurs, arrêtez avec le Kurzawa bashing, ça devient de l'acharnement. Voilà, on nous dit ça.
Qu'est-ce que tu veux faire d'autre?
Mais je sais pas ce qu'on peut dire de plus.
Mais tu peux rien dire de plus. Il doit pas rentrer sur le terrain. Quand il rentre sur le terrain, c'est un handicap. Alors, comme déjà le PSG, avant qu'il rentre, s'était collé un tas de handicaps en affichant un visage assez terrible au niveau motivation, au niveau implication, jeu collectif. Si en plus, tu te remets une balle dans le pied en faisant rentrer Kurzawa,
d'autant que tu dois aller,
termine mal le match.
D'autant que tu dois aller chercher le résultat. Bah, parce que c'est le meilleur moyen d'aller chercher le résultat.
Non, mais au-delà de la présence de ce type-là, c'est le changement qui est difficile à comprendre. Mais Tuchel, quand il, je sais pas pourquoi, des fois, il se met à bricoler une équipe.
C'est ça,
Il fait du bricolage.
Il a un effet bricolage, bricorama ce soir, là.
Et ça donne jamais rien de bon, quoi. Ouais.
Alors, beaucoup disent également, voilà à quoi servira Neymar également. Pour tous ceux qui ont critiqué Neymar en disant va-t'en Neymar sur ce genre de match, Neymar aurait peut-être fait la différence, plus que d'autres, en tout cas. Voilà. Ça, je sais pas. Alors, franchement, les gars, Neymar aussi, parce que
tu perds et tu cherches à savoir où étaient les absents.
Pareil, hein. Les absents ont raison souvent quand tu perds.
Je sais pas, tu peux pas. Je comprends même pas qu'un supporter
un donné,
du PSG, qui que ce soit au PSG, cherche où étaient des absents quand tu joues le dernier de Ligue 1. Moi, je trouve que c'est même honteux d'aller dire il manquait Thiago Silva, Verratti, il manquait Neymar, il manquait ceci, cela.
On a vanté
avec les mecs qui étaient dispo, des choix qui étaient à la disposition de Tuchel et de qu'est-ce qu'ils pouvaient faire et de l'implication et de l'intensité qu'ont mis les joueurs qui étaient là. C'est ça dont il faut parler.
On a loué les choix de Leonardo d'avoir reconstruit un effectif beaucoup plus homogène avec en ayant doublé les postes quasiment partout. Voilà, ce soir faut incriminer aussi et surtout les joueurs. C'est les joueurs qui étaient sur le terrain.
Les 11 parisiens, c'est meilleur que les 11 dijonnais au coup d'envoi.
Mais c'est même pas une question. Ils se sont fait manger dans les duels. L'envie y était pas. T'as des joueurs qui devraient être des joueurs qui impulsent le jeu. Ils ont rien fait ce soir. Et ben voilà. Et ben c'est aussi simple que ça. À un moment donné, faut que les joueurs prennent aussi leurs responsabilités.
Ludo, vous écoutez l'after avec Daniel Riolo et Ludovico Bragnac. Je voulais qu'on parle de Cavani quand même, vite fait. Alors, étrange soirée pour Edinson Cavani. Quatrième match dans le groupe parisien depuis son retour de blessure. Pour la quatrième fois remplaçant, il s'est pas échauffé avant le match. Il s'est échauffé à la mi-temps.
Sûrement déçu, ouais.
On aimerait savoir si c'est son choix personnel, la déception de pas débuter encore une fois.
Après, il y a deux.
Comment vous analysez ça, les gars? Tourelle, je le dis rapidement, il a déclaré, c'est notre décision, Cavani sur le banc. On a eu beaucoup de temps entre les deux matchs. Ce n'est pas nécessaire de laisser Mauro Icardi, Kylian Mbappé ou Angel Di Maria sur le banc. Ils ont bien récupéré. Je ne peux pas toujours expliquer mes décisions à chaque match. Normalement, il devrait rentrer. Il a dit ça à la mi-temps, Thomas Tourelle, pour justifier, la place sur le banc d'Edinson Cavani.
T'as deux points de vue.
T'as
deux points de vue. T'as le point de vue un peu comme nous, consultants, supporters du Paris Saint-Germain, qui aimons beaucoup Edinson Cavani et qui le respectons pour ce qu'il a fait pour le Paris Saint-Germain.
C'est pas que ça, Ludo.
Non,
là.
Mais attends.
Quatrième match sur le banc.
Laisse-moi.
Jeudi jour, toujours Ligue des Champions.
Tu peux me laisser développer ou pas? Donc oui, t'as cette partie-là du public qui réclamerait qu'Edinson Cavani joue et soit titulaire sur ce match-là contre Dijon. Et après, t'as l'entraîneur Thomas Tuchel qui lui joue sa tête cette année et qui se dit il en a rien à cirer du respect qu'on doit donner à Cavani et machin. Le poste de numéro 9, c'est comme le poste de gardien de but. C'est un poste hyper spécifique. T'as Icardi qui est en forme, qui enchaîne les buts. Ben voilà, dans sa tête d'entraîneur, il se dit, il est dans un rush, je vais pas couper le rush.
C'est pas Choupo-Moting, Cavani, tu vois.
J'ai mon attaquant.
Tu dégrades pas
ton équipe. J'ai mon neuf, il marque des buts, je vais pas couper la dynamique.
Non, mais moi, je pense que
j'ai pas coupé la dynamique.
Je comprends ce que tu dis, je comprends la réflexion, mais ça veut pas dire que je trouve qu'elle est juste. Que Icardi ait été très bon ces dernières semaines, c'est vrai. Mais tu vois, un joueur emblématique du club qui s'est blessé, à moins qu'à l'entraînement, il montre qu'il n'est pas en forme. Ok. Mais s'il est en forme, il n'y a pas de raison que tu le relances pas. Et il n'y a pas de raison que Cavani, en étant titulaire ce soir, ne plante pas et ne n'indique pas à Tuchel qu'il est toujours vivant et qu'il est toujours là. Tu peux pas. Ok, d'accord. Oui, la saison est très importante pour Tuchel, mais pourquoi il gagnerait pas avec Cavani et il gagnerait plus avec Icardi qu'avec Cavani.
Je te dis, je me mets peut-être à la place de Tuchel qui se dit attends, j'ai mon œuf actuel. Il est dans un bon truc. J'ai pas envie de casser cette dynamique.
Moi, je l'ai entendu dire. Je veux pas casser la dynamique parce que le mec est en forme, donc je le mets. Mais alors, ça veut dire quoi? Dans ces cas-là, tu vas jamais le faire tourner. Non, il faudra bien qu'à un moment tu le fasses tourner. Mais à quel moment tu vas le faire tourner? Et à quel moment tu vas aller chercher un joueur emblématique qui est le meilleur buteur de l'histoire du club pour lui dire tiens, l'autre il est un peu crevé là, va le remplacer. Tu peux pas gérer un effectif comme ça. Tu peux pas faire ça à Cavani.
Il lui a bien fait comprendre, à mon avis, en allant pas s'échauffer.
Mais tu peux pas. Voilà. Moi j'ai jamais compris les entraîneurs qui raisonnaient comme si les joueurs étaient des pions.
Oui.
Genre, en gros, il n'y a rien derrière eux. Il n'y a pas le passé, il n'y a pas le ceci, il n'y a pas l'importance, il n'y a pas le malin. Le meilleur, ok, oui, a priori, c'est une phrase. Les meilleurs doivent jouer. Mais d'abord, rien ne dit que si Cavani joue, ce soir, il n'est pas bon et il ne marque pas.
Peut-être pas dans son esprit. Après, le truc sur ce match-là...
Bah donc, il va faire quoi? Il ne le mettra plus jamais, alors?
Non, le truc qui est assez fou sur ce match-là, où il y avait... quasiment rien à tirer avant l'entrée de Cavani, c'est que Cavani et Cardi, ils sont rentrés, ils ont réussi à se trouver les deux.
Ils ont joué ensemble.
Ils se sont trouvés les deux.
Ouais, parce donc ça veut dire qu'ils sont jamais les mettre ensemble.
Bah ouais, ça veut dire que tu peux éventuellement peut-être sur une petite partie de match jouer en 4-4-2 avec les deux devant. Pourquoi pas?
Ouais, pourquoi pas. Sauf qu'on sait que ça ne pourra jamais se faire.
Ça ne pourra jamais se faire. Mais là, en tout cas, s'il veut éviter les problèmes, en tout cas avec Cavani, et lui donner un peu plus de temps de jeu, parce qu'on a cru comprendre, au vu des déclarations qu'il fait sur lui, que Icardi passe en premier maintenant dans la hiérarchie, c'est ce que moi je comprends quand il s'exprime sur Cavani.
Mais l'histoire de le mec est en forme, il lui est passé devant. Icardi il a mis des buts, mais sur quelle période, contre qui? C'est pas comme s'il avait
Daniel,
fait.
Je te dis pas que c'est moi.
Genre Cavani s'est fait les croisés pendant 7 mois, il était pas là, et entre temps le mec qui s'est installé, ils ont fait demi ou finale de Ligue des Champions. Le gars, il a commencé le match contre le Real, il a été bon. Enfin bon, il a pas joué le match entier, il revenait, donc il était pas encore en forme. Hein. Derrière, il a été bon. Ouais, mais bon, pas dans des matchs d'une importance capitale, pas dans des matchs injouables pour le PSG, enfin des matchs de Ligue 1, quoi.
Daniel, soyons.
Il y a rien qui mérite Daniel. Que d'un coup Icardi efface Cavani.
Soyons clairs, ce n'est pas mon avis.
Mais je me place
Non, mais tu comprends en position de Thomas de Roque, numéro 9, j'essaie de comprendre ce qui peut justifier son choix.
J'ai bien compris
moi, je mets Cavani titulaire sur ce match-là.
Mais là, t'as l'impression qu'il le traite comme Choupo-Moting finalement. C'est un peu ça.
Son nouveau Choupo. Dans la hiérarchie.
C'est le mec intermédiaire entre Choupo et Icardi maintenant.
Tu lui envoies un message, mec, t'es plus.
Tu vas le perdre, le risque est là. Les joueurs, c'est pas des pions.
En plus,
c'est aussi des mecs qui ont des états d'âme.
Bien sûr.
Tu peux pas faire ça. Des vexations.
Et d'ailleurs,
tu vas perdre le gars.
D'autant que lui, c'est peut-être celui qui en a le moins d'état d'âme.
S'il en a quand même.
T'es meilleur buteur de l'histoire du club.
Avec le PSG,
tu rentres déjà pas. Ça fait 2 matchs que t'es sur le banc. Tu rentres très peu ou que tu rentres pas. Là, ce soir, t'as l'occasion dans un match qui semblait accessible. Tu commences pas le match. Ça commence quand même à faire beaucoup pour lui. Lui, il commence à voir le. Il commence à comprendre le message.
C'est légitime.
Je sais pas si c'est légitime, mais on peut essayer de se mettre à la place de Thomas Tuchel qui se dit voilà, j'ai mon œuf, je casse pas la dynamique. C'est la seule explication que je puisse trouver.
Voilà pour la défaite du PSG ce soir à Dijon, 2-1. Le PSG évidemment toujours leader. Nantes pourrait se rapprocher du PSG dimanche 15h en cas de victoire.
Et Nantes pourrait peut-être rester deuxième s'ils perdent encore ou pas.
Bah oui, forcément ils sont actuellement deuxième. Donc si ça perd derrière Nantes,
parce que si après 3 défaites,
tu sais que Dijon dans 2 journées peut être sur le podium. Avec 2 victoires, ça peut être dingue.
Mais ce groupe a du potentiel.
Daniel Riolo, Ludovico Bragnac, dans un instant, le dossier Ben Arfa. Je sais que Daniel,
Monsieur
pour lui, ce joueur n'existe quasiment plus.
Monsieur Fa.
Ah oui,
Ben Arfa. Ouais. Nantes le veut, c'est l'info.
On
ne
peut pas faire le débat à deux là, monsieur.
Nantes le veut, on parle de Marseille également.
Grotesque.
Et dernière déclaration d'André Villas-Boas. C'est pas grotesque, c'est une réalité. Nantes le veut, Daniel.
C'est grotesque. Il y a des réalités qui sont grotesques.
Il s'appelle le surréalisme. A tout de suite dans l'after, on est ensemble jusqu'à minuit.
RMC L'Afterfoot, Nicolas Jamain.
Oui, l'After est là jusqu'à minuit avec Ludovico Bragnac, avec Daniel Riolo, supporter nantais. Appelez-nous au 32-16, supporter niçois aussi également si vous le voulez. On va parler de HBA. Il y en a des chômeurs les plus riches de France actuellement, monsieur Atem Ben Arfa. Oui, il revient dans l'actualité. On n'a pas de nouvelles. Le dernier match joué, c'était il y a 6 mois avec le Stade Rennais. Il n'y a plus rien. Ben Arfa s'entraîne deux fois par jour apparemment avec un préparateur physique personnel à Paris ou en région parisienne. Et il se trouve que avant le un mois et demi avant le mercato d'hiver,
ne nous mentons pas, hein, ça remplace en rien l'entraînement collectif. Ça ne remplace en rien.
T'inquiète pas, on va nous le vendre comme ça quand même. T'inquiète.
Ça ne remplace en rien l'entraînement collectif. Il s'est donné le matin, 3h le matin, 3h l'après-midi. Voilà, le mec est affûté.
Je t'en parle en connaissance de cause. Ouais.
Mais je l'ai croisé dans Paris à Tem Ben Arfa dans le 6e arrondissement. Un soir. Tem Ben Arfa, donc. Écoutez, Nice, le président Jean-Pierre Rivère a déclaré en milieu de semaine, pourquoi pas Tem de retour chez nous. Réponse de son coach, Patrick Vieira, aujourd'hui en conférence de presse.
Le président s'est exprimé par rapport à l'infinité qu'il pouvait avoir avec Tem. Tem est un joueur très intéressant, est un joueur qui a prouvé qu'il avait du talent, mais ça rentre pas dans le projet qu'on veut mettre en place ici à l'OGC Nice.
C'est clair.
Ah, donc écarté. Parce
recadrage de Patrick Vieira, recadrage de son président.
Vieira sait que ça va être un handicap dans l'effectif. Donc maintenant, on va nous la vendre à Nantes.
Épisode suivant, justement, nos infos. Valdemar Quitta rêve de Tem Ben Arfa à Nantes. Ce sont nos infos parce que c'est clinquant. Il aime ce qui brille. Voilà, il aime les paillettes.
Ça serait beaucoup de pub pour le FC Nantes, d'autant plus qu'en ce moment, ils sont en capacité de le faire au vu de leur classement. Après, moi, je me souviens un peu de. C'est vrai que forcément, il a une carrière en dents de scie, et je me souviens d'un homme qui avait réussi
en dents de scie.
Ouais, en
fait, il y a eu des plus en dents qu'en
scie. Dans la scie, je sais pas.
Il y a eu quelques moments.
Si t'as une scie, à un moment, enfin une dent, ça peut.
Alors, n'exagère pas.
Ça fonctionne.
Et c'est pour ça que je vais t'en parler. Je me rappelle moi de son passage à Nice avec Claude Puel, qui pourrait avoir certaines similitudes. Pareil, c'est comme Gourcuff, c'est des ronces, tu vois, c'est un peu côté père fouettard.
C'est des quoi, des ronces?
C'est des ronces, quoi. Ils sont du romal, ils sont un peu, c'est pas des mecs faciles, tu vois, faut aller les chercher. J'ai l'impression qu'avec Claude Puel, c'était le seul qui avait réussi à tirer un peu la quintessence du potentiel, en le recadrant par le moment, mais en lui laissant une certaine liberté.
Et en l'aimant,
en l'accompagnant un peu. Je pense que Christian Gourcuff pourrait être un peu dans cette position-là, c'est-à-dire de, en plus, il nous parle de football à longueur de journée, donc on l'a écouté dans les médias, le foot, le jeu. Bon, bah là, t'as un des professeurs du football. Donc.
Mais t'as aussi un élève parfois indiscipliné.
Oui, mais les élèves indisciplinés, il faut des fois savoir trouver le bon cheminement, la bonne attitude pour pouvoir tirer le potentiel. Mais
pour finir les infos, Ludo.
C'est tellement incertain, mais je pense que après, ça dépendra du salaire et d'autres choses, mais pourquoi pas, ça peut être un coup à faire.
Alors, pour finir avec les infos de Pierre-Yves Leroux, notre correspondant à Nantes, Valdemar Quitta le veut. Voilà, la porte est grande ouverte pour Tem Ben Arfa. Christian Gourcuff, pas forcément.
Non, absolu. Non, il a dit il faut qu'il ait envie de venir et qu'il s'inscrive dans ma vision.
Qu'il ait envie de courir. Il veut pas se brouiller avec Quitta, parce que c'est étonnant, mais les relations sont bonnes entre Christian Gourcuff et Valdemar Quitta, alors beaucoup
Gourcuff, je pense qu'il est arrivé à Nantes dans un état d'esprit de j'accepte tout, je prends tout.
C'est du bonus, je suis bien.
Ah là, Quitta, il peut lui mettre qui il veut, il dira oui.
mais ça lui va bien, figure-toi.
Ah, je pense que.
Il a retrouvé le sourire, il a l'air beaucoup plus détendu.
Mais tu sens pas un enthousiasme délirant quand tu lui parles de Ben Arfa aujourd'hui en conférence de presse. Gourcuff, il dit. Je ne vais pas commenter les rumeurs.
Va gérer ça.
Quand un joueur vient, il faut connaître les conditions de la venue. On a la prétention d'avoir un projet. Hein, c'est intéressant. Hein, voilà. La prétention d'avoir un projet. Si j'ai signé ici, c'est que j'ai une idée du jeu collectif, de ce que l'on veut faire. Si des bons joueurs veulent nous rejoindre, je n'ai pas à avoir de rejet. C'est d'abord l'envie des joueurs de venir qui fait la différence. On n'est pas sur une déclaration d'amour. Atem vient, on t'attend.
Sa position à lui, voilà, tu viens, t'es libre dans les 30 derniers mètres, tu fais ce que tu veux. Par contre, tu t'inscris dans le projet du replacement défensif, du truc. Par contre, t'as une liberté totale sur le plan offensif, ça va être ça.
Bon, vous l'avez compris, Daniel veut pas en parler.
Non, Daniel,
Daniel, il veut pas. Pour lui, c'est un joueur qui n'existe plus. Voilà, bon, c'est clair.
Mais tu sais
vraiment pas, t'as vu, je le regarde, il n'y a rien.
Mais tu sais,
silence,
mais le pire, c'est qu'il est capable de nous surprendre.
Mais pourquoi Quitta, il veut maintenant et pourquoi il n'y a pas pensé avant?
Il est dans une position de faiblesse, là, à mon avis, il a envie de retrouver les terrains. C'est dans cette position-là qu'il est prêt à accepter, à mon avis, des conditions qu'il n'était pas prêt à accepter fin août, début septembre. Ouais. Ça se passe sur le plan financier, faut pas se mentir.
C'est encore à 300 000, tu crois? Mais non, pas en dessous.
Si lui file un salaire énorme, alors.
Moi, je marche au bonus. Enfin, je marcherai sur.
C'est quoi, toi ? Quel contrat tu fais à Tembe Rafa, vas-y.
Ouais, ben tu fais un contrat avec en deux parties, un contrat avec un fixe et un contrat avec résultat, nombre de minutes passées sur le terrain et.
Il a 32 ans, il a pas joué depuis 6 mois. Tu fais quoi en fixe ?
Mais franchement, je fais pas un gros fixe. Je te dis, je mets 90 000. Je mets la grosse partie sur le temps passé sur le terrain, l'apport, les passes D, les buts. Ouais. Bah, tu vois, je mets sur contrat quoi que même pas, parce que ça voudrait dire qu'il la joue perso sur certains trucs. Donc non, mais je mets une part. Je mets pas, en tout cas, sur le nombre de matchs joués. Voilà.
Voilà. Bon, ben voilà. Vous avez compris. Le dossier Ben Arfa est refermé.
Bah, ou peut-être réouvert, on ne sait pas.
Je savais en préparant l'émission que tu allais parler tout seul, Ludo, ce soir, Nathan Ben Arfa. L'after est là jusqu'à minuit, Ludovic Obraniak et Daniel Riolo.
Daniel, c'est.
Moi, je suis pressé de le voir dans l'équipe.
Il n'est pas si méchant, Daniel, il est déçu quand il voit tellement de potentiel gâché et inexploité. Je pense que c'est ça qui le désole.
Ouais, en même temps, les mecs font ce qu'ils veulent de leur vie. Hein.
Oui, mais oui, quand tu vois, c'est ça qui te désole vraiment chez ces
joueurs.
C'est qu'ils gâchent un talent qui
est. Je veux bien qu'il revienne, non ? Quand il y sera, on en parlera, quoi.
Voilà pour Atem Ben Arfa. Dans quelques minutes, on part de l'Olympique de Marseille. La dernière conférence, c'est marrant, avec Villas-Boas, à chaque conférence de presse, soit tu lis entre les lignes et c'est intéressant, ouais. Soit tu lis pas entre les lignes et c'est quand même intéressant. Quoi.
Voilà, là,
toujours des bonnes déclats. Non, mais c'est passionnant.
Et tu termines un peu dépressif.
Ah oui, ça devient le gars.
Il est pas loin de la dépression.
Le gars devient gris.
Ouais, enfin, là,
on l'a bien, mais devient gris.
Là, elle était intéressante celle-ci dans le sens où ça y est, il a protégé, il a.
C'est la conf de la fatalité.
Il a essayé de trouver des excuses maintenant. Oh. Il a compris que, à un moment donné, il a eu beau tenter tout ce qu'il voulait, les systèmes tactiques, le pressing haut, le truc. À un moment donné, ça dépend de l'envie et du QI foot des joueurs qu'il a sur le terrain.
Le Bradley Cooper de la Canebière.
Ah, il y a de ça, t'as raison. Ouais. Ah, un peu la mèche à la Bradley Cooper, ouais. Avant qu'on parle de Marseille, messieurs, quelques infos. Tiens, Ousmane Dembélé, c'est Melo Mtiti, pas dans le groupe du Barça pour le déplacement demain à Levante. Pas de blessure pourtant. C'est un peu surprenant. Dembélé qui revient de match de suspension. Pas dans le groupe. Tiens, cette info là. Le savet de Genève. Je sais pas si vous avez vu ça.
Non.
Histoire un peu étonnante. A tenté à une malheureuse communication, coup de com, en voulant pousser sa billetterie avant le match dimanche contre les Young Boys Berne. Le responsable des réseaux sociaux du Servette a cru bon de poster sur le compte Twitter du club une photo d'une actrice porno. Dénudée. Qui monte les marches du club en disant c'est par ici la billetterie. Venez acheter des billets.
Mais donc,
cette actrice porno s'appelle Little Caprice. Ça crée une polémique en Suisse, figure-toi.
Pourquoi ?
Parce que un cul nu qui monte ses escaliers, ouais, pour aller acheter des places, le mec l'a mis sur la page du compte Twitter du Servette Genève pour encourager les gars à venir acheter des places. Il n'y a plus faim, Daniel, quand même.
Ah non, mais ça.
Il y a plus subtil que ça.
Alors,
tu vois,
qui est plus fin.
Polémique, qui est grosse plus, polémique.
Qui est plus fin, oui, mais donc que ça fasse polémique, ils sont en
assez. Le club s'est excusé et a retiré les sites immédiatement.
Pourquoi, c'est excusé de son mauvais goût ?
Non, parce que tu imagines bien, il y a eu beaucoup de réactions.
Non, mais tous les community managers maintenant, ça invente tellement de choses que maintenant ils ont atteint des. Enfin, ça en devient ridicule. À un moment donné, c'est peut-être pas obligé d'aller chercher dans ces extrêmes-là pour avoir un peu d'humour et plaire aux gens, quoi. Tu vois, là, ça déborde, ça va. Enfin, en même temps, il y a rien de dramatique non plus, mais.
Parce que c'est le meilleur moyen.
Il y a quand même des enfants, des trucs qui sont sur les réseaux. C'est pas le meilleur moyen de passer un message.
Voilà.
Moi
aussi, mais bon.
Liverpool va peut-être vivre une première mondiale, jouer deux matchs en même temps. Un quart de finale de Coupe de la Ligue anglaise et un match de Coupe du Monde des clubs.
Klopp.
Même jour, le calendrier
Klopp,
est fait.
Il avait l'air vénère.
Il était vénère. L'after est là jusqu'à minuit. Ludovic Obraniak, Daniel Riolo. Marseille dans un instant, bien sûr. Avant demain, le choc au Vélodrome. Entre Lille qui n'a pas gagné un match à l'extérieur cette saison, qui se verrait bien en gagner un demain au Vélodrome, et Marseille qui veut se relancer après ses deux défaites face à Paris. L'AS Monaco, on écoutera André Villas-Boas. À tout de suite dans l'After
RMC. L'After Foot, Nicolas Jamain.
L'After jusqu'à minuit avec Daniel Riolo, avec Ludovic Obraniak, bien sûr, on est ensemble jusqu'à minuit. Marseille à présent, messieurs, 32-16, le hashtag RMC Live, appelez-nous, supporters marseillais. Demain, 17h30, Stade Vélodrome, Olympique de Marseille-Lille. Tiens, nos infos, 20 joueurs convoqués, Alvaro González dans le groupe. Un test sera fait demain, mais encore récemment sous anti-inflammatoire, nous a dit Florent Germain, notre correspondant à Marseille. C'est plus compliqué.
Anti-inflammatoire,
hein.
Pourquoi ?
Parce que c'est Flo qui dit ça aujourd'hui.
Mais pour sa blessure.
Non ? Ouais, exactement.
Non, mais
quelques jours encore.
Peut-être je me trompe sur comment et quand faut-il prendre les anti-inflammatoires.
Tu les prends quand, toi? T'en prends jamais, toi?
Je pensais pas pour ce genre de blessure-là, tu vois.
C'est quoi la blessure?
C'est quoi la blessure? C'était la cuisse, je crois, pour Alvaro González. Ouais.
Si, si, oui, ça peut.
C'est une douleur, c'est juste pour étendre la douleur.
Hein. La composition probable de Marseille demain, celle de Flo Germain, en tout cas, Malanda dans le but, Sarr, Camara, Tchaïta Tsar, Amavi en défense, Lopez, Trottmann, Rongier, Payet à gauche, Ranondis à droite, Benedetto, Germain devant. Voilà la composition de l'Olympique de Marseille. Marseille qui reste sur deux défaites, hein. Paris-Monaco. Faudrait pas enchaîner sur une troisième défaite, hein. Parce que tranquillement, là, c'est en train de se tendre à Marseille.
Bah, le truc, c'est qu'il faudrait pas. Il faudrait surtout constater d'abord que, au moins sur le papier, Lille est meilleur que Marseille, puisque Lille a terminé deuxième, Lille est en Ligue des Champions, et que Marseille est très loin de tout ça. Maintenant, une fois que t'as dit ça, ça pose, l'affiche. Et ça veut dire quoi? Que c'est un match sacrément important pour l'OM, qui joue contre une équipe a priori plus forte. L'OM est dans une sale période et on attend de l'OM qu'elle montre un visage combatif, qu'ils montrent qu'ils peuvent faire quelque chose dans ce championnat, que ça peut être un acteur important de ce championnat, qu'ils peuvent rester en phase avec l'objectif qu'on n'a pas. On n'a forcé personne, nous, à Marseille, à dire que l'objectif était podium. Mais en tout cas, eux veulent le voir comme ça. Eh bien, à un moment, il va falloir le montrer. Et vu le contexte, effectivement, il y a un bon paquet de pression qui est en train de tomber sur la tronche des Marseillais de Villas-Boas, avec tout d'un coup une forme d'obligation pour eux à être bons demain après-midi, au minimum. Et on a presque envie de dire à gagner.
T'as presque pas le choix là. Hein. C'est en plus c'est une équipe qui est censée être dans ton championnat puisque
après tu joues Lyon,
ça comptait pas. C'était
non, mais
pas.
Mais tu fais bien de rappeler
pas
ça.
Dans ton championnat. Donc là, tu passes au révélateur. Et donc là, c'est une équipe à qui t'es censé te battre. Tu viens de jouer un match de Coupe de Ligue contre une équipe de Monaco qui avait pas aligné la top équipe.
Mais qui avait des joueurs meilleurs que ceux que t'as toi.
Et déjà, donc c'était déjà inquiétant. Après, moi, tu vois, Villas-Boas, il a essayé de leur trouver des excuses. On a parlé du. Comme Paris, à un moment donné, les joueurs, ils n'ont pas une part de responsabilité là-dedans, les joueurs. Quand je vois le match de Paris, la première mi-temps, on peut me raconter ce qu'on veut. Moi, Villas-Boas, j'ai trouvé ça un peu culotté, justement, d'imposer, d'aller des 10 premières minutes, essayer d'aller un peu plus haut, d'essayer d'imposer le jeu dans
pas,
le camp.
Non, mais remonte quand pas, Trottmann, pas au match de l'OM, c'est le match de ce milieu de semaine qui est terrible. À Monaco, l'attitude affichée. Là, tu te dis, mettez-vous devant une glace, les responsabilités, Daniel, les gars. Daniel, qu'est-ce que vous foutez?
Aujourd'hui, au-delà de parler technique, tactique, Marseille, aujourd'hui, déjà, il faut des mecs qui courent. Déjà pour être bon, faut être physiquement au top. T'as plein de joueurs qui sont pas au top physiquement. Strootman, il joue dans 10 mètres carrés. non, mais sans déconner.
Dans 10 mètres carrés.
Il joue dans 10 mètres carrés. J'ai regardé le match, il joue dans 10 mètres carrés. Dimitri, moi, je le connais bien, je l'aime beaucoup. Mais putain, quand t'es la figure de
proue.
Non,
c'est moqué d'hasard.
T'es la figure de proue du Champions Project.
Et quand
t'es ta responsabilité.
Ouais.
Putain,
mais
tu te dois trouver moins d'être en forme.
Mais Payet, c'est bon, le garçon. Payet, franchement, il est titulaire dans le 11 Big Mac.
T'es pas en forme.
Dans le 11 Big Mac. Tiens, envoyez-nous un 11 Big Mac sur la chaîne.
Le 11 Big Mac. Envoyez-nous un 11 Big Mac. Payet et Cazeri devant.
Moi je peux le devant. On peut le dédouaner.
Tu sais que Benyedder a eu sa place à un moment également.
Cardinal dans les
Cardinal
buts.
Cardinal dans le but.
Non mais je veux
hasard numéro 1.
Je peux pas dire ça pour dire ça pour parler.
Mathieu Bonnemer.
Mais il se doit de.
Ah Bonnemer, il est au milieu.
Il a été à un moment donné le capitaine. Il a été à un moment donné le capitaine de cette équipe.
Ludo évidemment aussi, pardon.
Tu te dois de. Tu te dois. Moi pas quand j'étais en carrière, je peux dire que moi.
Oui, non,
j'avais une hygiène de vie. Écoute-moi bien. Pendant 10 ans, j'ai fait le même poids. Donc pour moi, il y a pas de secret. Ouais, ben après, il fera ce qu'il veut quand il aura envie.
Vas-y, enchaîne.
Mais t'étais le capitaine de l'OM, t'étais la figure de proue du Champions Project à la base. Tu te dois d'être dans une forme optimale pour au moins être. Dimitri, il a besoin d'être très bien physiquement pour exprimer tout son potentiel. Mais... il n'est pas au top physiquement. Il faut qu'il fasse cet effort-là. Il faut qu'il soit au top. Il y en a un qui l'a fait. Il s'est remis en question. Il a une année. Et regarde les performances. C'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. Cette équipe-là, elle n'est pas en forme physiquement. Et avant de commencer à parler de technique,
il y a plus en plus de gros.
Et tout.
Les mecs qui reviennent gros.
Mais non, mais il y a de plus en plus de mecs qui ne sont pas professionnels surtout.
Mais c'est fou parce que
les mecs qui sont pas professionnels.
Certaines personnes, Eden Hazard, c'est quand même, on en a parlé des heures hein, dans l'after. Top joueur mondial, Real Madrid, club de ses rêves, il revient gros. Cazeri, il revient gros. Malanda, le dernier, il revient gros.
Nico.
Payet, suspendu 4 matchs, il revient.
Il est
enrobé.
C'est être professionnel, c'est l'exigence qui effectivement n'est plus très présente dans notre foot. Et on a l'impression que quand tu l'exiges, tu passes pour une sorte de dictateur ou de fou. Moi, j'ai passé la Coupe du Monde de rugby à lire d'abord une extraordinaire interview d'Eddie Jones. Et ensuite à lire ce qui se disait sur lui,
sur l'homogénéité de l'équipe, de la travail, construction de l'équipe.
Et, ouais. Et parce qu'il faut pas rester que dans le foot quand on aime le foot. Sûr. C'est aussi en lisant des interviews d'autres mecs et tout. Mais tu ne peux pas t'étonner que ce mec-là ait les résultats qu'il a eu. Et exactement comme quand tu lis l'interview de Klopp dans SoFoot du dernier numéro. L'exigence, le haut niveau, c'est ça. Si tu ne veux pas de cette exigence et de ce haut niveau, tu vivotes, tu continues. Puis tu fais ta vie et puis tu manges bien.
Ah, t'as Ben Arfa dans l'équipe également, t'aurais pu mettre.
Parce qu'en Ligue 1, tu manges bien. Ouais. Les salaires sont très confortables. Tu vivotes, t'es dans ton petit confort. À l'OM, les mecs, ils sont dans le petit confort. Ils sont sortis de l'exigence de l'OM. Il n'y a plus personne pour leur dire t'es à l'OM. J'ai entendu Dimeco cette semaine. C'est très juste ce qu'il disait sur l'OM. Il y a quelque chose en lui, en Eric, qui est bouffé de l'intérieur quand il voit ce que font les mecs sur le terrain. Et je peux le comprendre. Ce club, évidemment, lui tient à cœur. Il sait ce qu'a toujours été l'exigence autour de ce club. Quand il voit certains comportements et certains mecs. Mais parfois, on le dit, ça nous fait marrer. Les joueurs le prennent mal. Ils téléphonent et ils font passer des messages. Arrêtez de dire que je suis gros, machin, là. Toute la clique, là, du 11 Big Mac, là. Mais les mecs, mais oh. Vous savez combien vous touchez, là? Mais c'est les phrases d'un journaliste. C'est les phrases de journalistes qui vont vous perturber. Mais faites attention à ce que ça perturbe pas les supporters et qui viennent vous le dire en face. Bougez-vous le cul.
C'est pas une question. Après,
c'est quand même incroyable le peu de professionnalisme.
C'est pas pour se moquer ou quoi. C'est que
Nabil le 32-16 arrive. Vas-y les deux.
À un moment donné, si Dimitri là, il perdait ne serait-ce que 5 kilos, ça serait un autre joueur.
Évidemment.
Ça serait un autre
il
joueur.
Il est revenu.
Mais
c'est la base. Il a eu 4 matchs.
Je ne pointe pas. Je ne pointe pas que lui. Hein.
Ludo, explique-moi comment c'est possible. Il a eu 4 matchs là, suspension là.
Il aurait pu se prendre.
Il est revenu. C'est un Bibanum Chamallow. Bordel. Qu'est-ce que tu fous?
Mais je ne pointe pas que lui, hein.
Le petit.
Non, mais
c'est quoi le raisonnement du gars? Excuse-moi, le mec, pendant un mois, j'ai pas de match à jouer. Je peux me relâcher. C'est aussi basique que ça.
Je comprends pas.
Il y a pas de match. Je vais m'entraîner.
Mais le truc, c'est que.
Un ou deux.
Le truc, c'est que.
Tu as envie de se faire mal.
Le truc, c'est que.
Tu vois, c'est ton ami, là, sur RMC Sport News. Vous pouvez le voir.
Je suis comme ça.
T'as l'impression que les mecs n'ont plus conscience de jouer à Marseille.
Mais bien sûr que c'est vrai. Mais bien sûr que c'est ça.
C'est fou.
Mais aujourd'hui, Bradley Cooper, il est en train de se rendre compte, comme beaucoup d'autres entraîneurs étrangers qui arrivent en France, que c'est compliqué. Et il est face à des attitudes qu'il n'avait pas l'habitude d'avoir. Et là,
Bradley Cooper, justement.
Le Cooper de la canne bien, il commence à flipper, là.
Écoutez, Bradley Cooper qui commence à déprimer.
Bien sûr.
André Villas-Boas,
sa place, c'est pareil.
En conférence de presse.
Oui, mais c'est comme Mario a dit, tu ne peux pas aller à la pharmacie et acheter la créativité, la mentalité et la personnalité. Tu n'as pas. Mais je pense que c'est pas le cas. Évidemment, quand tu perds ou quand tu fais une série de défaites négatives, on sort la physique, les problèmes de la physique, on sort le problème de la créativité, on sort les vrais problèmes qui sont le jeu, les erreurs individuelles, collectives. Et ça, comme entraîneur, c'est qui m'intéresse.
La créativité, la mentalité, la personnalité, tu les as ou tu les as pas.
Mais t'as vu ce qu'il vient de dire?
C'est pas cette naissance. Ça aussi, on l'a pas mis
l'extrait. Au-delà de parler de la tactique et de... Déjà, sur le plan physique, il faut déjà qu'on soit bien. Si on n'est pas bien, déjà, on peut pas exister dans cette Ligue 1. Et contre Lille, je t'annonce, hein, en face, c'est des robots. Hein. En face, t'as Soumaré, André au milieu.
Ah oui.
Ça cavale 12-13 bornes par match. Ça vient de presser haut, les mecs, c'est des avions de chasse. Si demain, ils sont pas, ils le sont pas de toute façon. Et c'est pour ça que je pense que ça va être très difficile pour eux de s'en sortir. Mais il va falloir qu'il montre autre chose. Moi, pareil, on parlait de Dimitri, mais le petit Bouba Camara, moi, c'est le régional de l'étape, ce qui me montre contre le Paris Saint-Germain, ou sur les 10-15 premières minutes,
19 ans,
s'il oublie pas, s'il est un peu plus agressif sur le marquage, et qu'il envoie.
Mais il a 19 ans.
Mais je m'en fous qu'il ait 19 ans.
Il a 33 piges.
Mais on s'en fout qu'il ait 19 ans. C'est le régional de l'étape, c'est lui qui est censé être le mec qui incarne la mentalité marseillaise.
On écoute Nabil et qui nous appelle au 32-16. Salut Nabil, supporter marseillais.
Salut, bonsoir.
Bienvenue dans l'after. Ludo Bragnac, Daniel Riolo, t'écoute. Vas-y.
Alors bon, je vous écoute moi depuis tout à l'heure. Je partage en intégralité ce que vous avez dit. Je pense que demain, il y a une obligation de résultat et une obligation de moyens. Il n'y a pas le choix. Demain, il faut tout faire pour gagner, mais au-delà de la victoire, il faut qu'il y ait l'impact, il faut qu'il y ait du jeu, il faut qu'on sente que les joueurs, ils ont envie de prouver que ce qu'ils ont sur le maillot, que ça a de l'importance. et qui ne peuvent pas se contenter aujourd'hui de courir sur un terrain, comme disait tout à l'heure que Strootman court dans 10 mètres carrés. Il faut que les joueurs ils montrent l'amour qu'ils ont pour le maillot et qu'ils courent. Donc je pense que demain, il y a cette double obligation. Et si ça se passe mal, je pense que ça va être très compliqué pour la suite de la saison.
Mais je sais pas, ton propos c'est quoi? C'est d'incriminer plutôt Villas-Boas ou plutôt les joueurs?
En fait, je pense que ça part du départ de tout en haut. C'est-à-dire que déjà le président, avec tous les échecs qu'il y a eu, il devrait plus être à l'OM. Derrière, je pense que l'erreur de casting du l'entraîneur Villas-Boas, c'était un bon entraîneur. Mais étant donné que cette année on devait jouer que des coupes nationaux, il aurait fallu des compétitions nationales. Il aurait fallu se concentrer sur un entraîneur Made in League. Il y en a plein sur le marché. Il y a Eli Bob qui est disponible.
Oh, attends, Nabil continue. Défibrillateur, s'il vous plaît.
Mais c'est pas possible, il peut pas dire ça. Comment tu t'appelles?
Nabil.
Pourquoi je pourrais pas dire ça?
Mais pourquoi t'es méchant comme ça? Pourquoi tu me fais du mal?
Non, moi je suis pas.
Oh, le coup de couteau là, putain, j'étais pas prévenu là.
Gérard Banide,
tu vois. Oh putain. Eli Bob.
Oh non, mais c'est le premier nom qui me vient à l'esprit, mais il y en a plein d'autres.
Mais comment ce nom peut te venir à l'esprit? Comment ce nom peut apparaître dans ta tête?
Mais Nabil, tu peux mettre Eli Bob, qui tu veux. À un moment donné, les
Eli Bob, il a terminé à l'OM, c'était Eli Bob.
Comme il te dit, Villas-Boas, il voit.
Plus personne n'en voulait.
Il a essayé des choses, il a mis en place des choses. Il voit qu'à un moment donné, la solution, elle vient des joueurs.
Mais comment le nom peut arriver dans la tête
de la solution?
Tu parles avec n'importe quel entraîneur.
Dans la tête d'un jeune supporter. Comment peut venir ce nom?
L'impact, j'ai commencé par ça. Les joueurs, ils n'ont aucune envie. Ils sont allés à Paris, ils se sont fait humilier. Contre Monaco, il n'y avait pas d'impact, il n'y avait rien. On a l'impression qu'ils sont là, ils rentrent sur le terrain parce qu'ils doivent jouer, ils n'ont pas le choix.
Ouais, mais tu crois qu'avec Eli Boff, ça aurait été différent.
Villas-Boas, il peut apporter plein de choses, mais il ne peut pas acheter les paires il peut pas acheter les paires de couilles pour tout le monde. Hein.
C'est pas très élégant ça,
Ludo. Non, mais c'est
acteur de l'élégance.
Bravo Ludo. Villas-Boas, il fait. Moi, je trouve que c'est ce qu'il fait.
Merci.
C'est plutôt intéressant.
Nabil, cadeau pour toi. On t'envoie deux places.
C'est compliqué.
Deux places pour OM Lille.
Los huevos demain. Ponga. Ponga los huevos demain.
Merci. Deux places pour OM Lille. C'est l'after qui t'offre ça avec RMC, bien sûr. Tiens.
Super gentil, je vous remercie.
Excellent.
Pour toi, avec ce que t'as dit, tu mérites pas, mon vieux.
Merci, Daniel Riolo.
Il est pour rien Daniel, tu sais.
Oh, Nabil, tu m'as tué.
Tiens, pour le 11 Big Mac, je propose Beto Marsico aussi.
Beto Marsico, oui, il est dans le 11 Big Mac.
Ouais. Ouais. Faudrait sortir une infographie, un 11 Big Mac, ça me fait marrer. Gignac aurait pu être à une époque aussi, voilà. On le fera demain dans l'after. Ouais. Daniel, merci.
Gignac, il a su comprendre et t'as vu le joueur que c'était.
Jean-Claude Darcheville.
T'as vu le joueur que c'était après?
Gros Darche, rappelle, Gros Darche. Allez, à demain, bonne soirée à tous. Ludo, à demain également. L'after revient à 22h.
RMC. L'After Foot.